Livre 2, le temps de pension. Chapitre 1er, premier semestre de Tom. Tom eut vraiment beaucoup à souffrir pendant le premier trimestre qu'il passa à King's Lorton, sous les soins distingués du révérend Walter Stelling. À l'académie de M. Jacobs, la vie ne s'était pas présentée à lui comme un problème difficile. Il y avait beaucoup de camarades pour jouer, et Tom, excellent à tous les exercices corporels, surtout à la lutte, avait au milieu d'eux cette supériorité qui lui paraissait inséparable de la personne de Tom Tulliver. M. Jacobs lui-même, familièrement connu sous le nom de « vieille besicle » à cause de son habitude de porter des lunettes, n'inspirait aucune crainte respectueuse. Et Tom pensait que s'il fallait ressembler à de vieux priseurs hypocrites comme celui-là pour savoir écrire aussi bien qu'un burin, entourer sa signature d'arabesque et pouvoir mettre l'orthographe sans y réfléchir d'avance et sans rature, il était bien aise pour sa part de n'être pas obligé d'acquérir ses talents. Il ne serait certainement pas un maître d'école, un priseur de tabac, lui, mais un homme solide comme son père, qui allait à la chasse quand il était plus jeune et montait une fameuse jument noire, la plus jolie bête qu'on eût jamais vue. Tom en avait maintes fois entendu vanter les qualités. Il comptait aller aussi à la chasse et être généralement admiré. « Quand les jeunes gens sont devenus des hommes, pensait-il, personne ne songe à examiner leur écriture ou leur orthographe. Quand il serait un homme, il serait maître de tout et ne ferait que ce qu'il voudrait. » Il s'était difficilement réconcilié avec l'idée que son temps de pension était prolongé et qu'il ne serait pas élevé pour le genre d'affaires de son père, genre qu'il avait toujours trouvé très agréable. Il n'y avait qu'à se promener à cheval, donner des ordres et aller au marché. Il pensait qu'un ministre lui donnerait beaucoup de leçons sur les Saintes Écritures, et probablement lui ferait apprendre le Testament et les Épîtres, ainsi que les prières le dimanche. L'absence de comparaison lui faisait croire impossible qu'une pension et un maître pussent beaucoup différer de l'académie de M. Jacobs. Aussi, pour n'être pas en défaut, dans le cas où il trouverait des camarades qui lui conviendraient, il eut soin d'emporter avec lui une petite boîte de capsules à percussion, dans le seul but de les convaincre de sa familiarité avec les fusils. Ainsi, le pauvre Tom, quoiqu'il vît très clairement les illusions que se faisait Maggie, n'était point lui-même sans en avoir, jusqu'à ce que l'expérience, cette mère de désillusion, vînt lui apprendre ce que c'était que King's Lorton. Avant 15 jours, il comprit que la vie, compliquée non seulement de la grammaire latine, mais d'une nouvelle manière de prononcer l'anglais, était une affaire très difficile, rendue d'autant plus obscure par la forte dose de timidité dont il était doué. Tom n'était point, entre les garçons, une exception pour l'aisance et l'adresse, mais sa difficulté à répondre, ne fût-ce qu'un monosyllabe à monsieur ou à madame Stelling, était si grande qu'il craignait presque qu'on ne lui demandât à table s'il voulait encore du pudding. Quant aux capsules à percussion, il avait presque résolu, dans l'amertume de son cœur, de les jeter dans une mare voisine. Car non seulement il était seul pensionnaire, mais il commença même à éprouver un certain scepticisme à l'endroit des fusils, et un vague sentiment que sa théorie de la vie pourrait bien être en défaut. Car M. Stelling ne s'occupait nullement de fusils ni de chevaux, et cependant il était impossible à Tom de mépriser M. Stelling comme il avait méprisé vieille besicle. Si quelque chose n'était pas tout à fait convenable chez M. Stelling, Tom n'était pas en état de le découvrir. Ce n'est que par une longue comparaison des faits que l'homme le plus sage peut apprécier ce qui les distingue. M. Stelling était un homme de près de 30 ans, bien fait, large de poitrine, avec des cheveux blonds hérissés et de grands yeux gris clair, toujours largement ouvert. Il possédait une voix de basse sonore et un air d'assurance qui frisait l'effronterie. Il avait commencé sa carrière avec énergie et avec l'intention de faire une grande impression sur ses semblables. Le révérend Walter Stelling n'était pas homme à vouloir rester toute sa vie dans les rangs inférieurs du clergé. Il se sentait une véritable détermination britannique de faire son chemin dans le monde. Comme maître de pension d'abord, car il y avait d'excellentes places de maître dans les écoles de grammaire, et M. Sterling pensait à en obtenir une. Puis comme prédicateur aussi, car il comptait prêcher toujours d'une manière assez remarquable pour avoir une congrégation augmentée d'admirateurs venant des paroisses voisines, et produire une grande impression toutes les fois qu'il remplacerait occasionnellement quelques confrères moins bien doués. Il avait adopté le genre de l'improvisation, que l'on considérait comme une espèce de miracle dans les paroisses rurales telles que King's Lorton. Quelques passages de Massillon et de Bourdaloue, qu'il savait par cœur, faisaient vraiment un très grand effet lorsqu'ils étaient déclamés sur les notes les plus profondes de la voix de M. Stelling. Mais comme de faibles passages de sa propre composition étaient dits de la même manière puissante et pénétrante, ses auditeurs les trouvaient souvent tout aussi remarquables. La doctrine de M. Stelling n'appartenait à aucune école particulière. Si l'on veut, elle avait une teinte d'évangélisme, car c'était justement alors la chose en vogue dans le diocèse dont King's Lorton faisait partie. Bref, M. Stelling était un homme qui voulait s'élever dans sa profession, et cela par son propre mérite. Car il n'avait personne qui pût lui porter intérêt, si ce n'est un parent problématique, un grand avocat, qui n'était point encore Lord Chancelier. Un ministre qui a d'aussi énergiques intentions s'endette nécessairement un peu en commençant. Car on ne peut s'attendre qu'il vive de la manière chétive d'un homme qui compte rester pauvre pasteur toute sa vie. Si les quelques centaines de livres que M. Timpson avança à sa fille ne suffirent pas pour acheter un élégant mobilier, une bonne provision de vin, un grand piano, et pour arranger un jardin à fleurs rares, il s'ensuivit de la manière la plus logique, ou qu'il fallait se procurer ces choses-là par un autre moyen, ou que M. Stelling devrait s'en priver. Cette dernière alternative eût retardé ridiculement l'heure de jouir des fruits d'un succès assuré. M. Stelling avait la poitrine si large et tant de résolution qu'il se sentait capable de tout. Il se rendrait célèbre en remuant les consciences de ses auditeurs, et il publierait bientôt une tragédie grecque et inventerait quelques nouveaux cours. Il n'avait pas encore choisi le sujet de la tragédie, car n'étant marié que depuis 2 ans, ses loisirs avaient été entièrement consacrés à Madame Stelling. Mais il avait dit à cette charmante femme ce qu'il comptait faire quelques jours, et, dans sa confiance en lui, elle l'en croyait parfaitement capable. Un premier pas vers les succès futurs était de faire progresser Tom Taleva pendant ce premier semestre, car, par une singulière coïncidence, il y avait eu quelques démarches de fait au sujet d'un autre élève du même voisinage, et cela pourrait amener une décision favorable si l'on apprenait que le jeune Taleva, qui, ainsi que le fit observer M. Stelling, en tête-à-tête conjugal, était plutôt un grossier ourson, avait fait de grands progrès en si peu de temps. C'est en raison de cela qu'il se montrait très exigeant avec Tom pour ses leçons, car bien décidément les facultés de celui-ci ne se développeraient jamais au moyen de la grammaire latine sans quelque sévérité. Ce n'est point que M. Stelling fût d'un caractère rude ou malveillant, tout au contraire. Il plaisantait avec Tom à table et corrigeait ses provincialismes et ses manières de la façon la plus gaie. Mais le pauvre Tom n'était que plus intimidé et confus de cette double nouveauté. Car il n'avait jamais entendu des plaisanteries comme celles de M. Stelling, et pour la première fois de sa vie, il acquérait la conviction pénible d'avoir eu plus ou moins tort. Ainsi, quand M. Stelling lui disait, au moment où l'on servait le rosbif, « Voyons, Taleva, qu'aimez-vous mieux décliner, la grammaire ou le rosbif ?» Tom, pour qui, dans ses moments les plus calmes, un calembour était une noix difficile à casser, se trouvait dans un état qui le rendait tout confus, sauf sa répugnance pour le latin. Il répondait alors « le rosbif ». Il s'ensuivait naturellement beaucoup de rires et de plaisanteries, au moyen desquels Tom comprenait qu'il avait de quelque manière mystérieuse refusé le rosbif, et s'était par ce fait montré un imbécile. S'il avait vu un camarade passer par les mêmes épreuves et les supporter courageusement, il les aurait bientôt considérés comme le cours naturel des choses. Mais il y a 2 espèces d'éducation coûteuses qu'un père court le risque de rencontrer pour son fils en l'envoyant comme élève unique chez un ministre. L'une est le résultat d'une négligence complète de la part du révérend, l'autre l'inconvénient de son attention exclusive et continuelle. C'est pour ce dernier privilège que M. Taleva paya un prix élevé dans les premiers mois du séjour de Tom à King's Lorton. Le respectable meunier et malteur avait laissé Tom et était revenu à la maison l'esprit très satisfait. Il considérait comme très heureux pour lui le moment où il avait pensé à consulter Riley relativement à un instituteur pour Tom. Les yeux de M. Stelling étaient si grands ouverts et il parlait avec une telle facilité. Il entendait si bien son sujet, répondant à toute lente remarque de M. Tulliver par un « Je sais, je vois, mon cher monsieur, je vois. » « Certainement, certainement. Vous désirez que votre fils soit un homme qui fasse son chemin dans le monde. » Que M. Tulliver fut enchanté de trouver en lui un ministre dont les connaissances s'adaptaient si bien aux affaires usuelles de la vie. À l'exception du conseiller Wilde, dont il avait entendu parler à la dernière session, M. Tulliver pensait que M. Stelling était l'homme le plus habile qu'il eût jamais rencontré. Assez semblable à M. Wilde dans le fait. Il avait la même manière de tenir les pouces dans les échancrures de son gilet. M. Tulliver ne faisait point exception en prenant l'assurance pour de l'habileté. Beaucoup de laïcs trouvaient que Stelling était habile et, en somme, un homme de moyens remarquables. C'était surtout ses confrères qui le considéraient plutôt comme un médiocre individu. Mais il parla à M. Tulliver si éloquemment au sujet des penchants innés et des incendiaires, il lui demanda d'une manière si parfaitement ordinaire et judicieuse, et avec une telle volubilité de langage choisi, son avis pour engraisser les porcs, que le meunier pensa qu'il avait trouvé juste ce qu'il fallait pour Tom. Il ne doutait nullement que ce personnage de premier ordre ne fût instruit à fond dans toute branche de connaissances et ne sut par conséquent tout ce que Tom devait apprendre afin de pouvoir lutter avec les procureurs. M. Tulliver lui-même ne le savait pas et ne pouvait pour se diriger que s'en remettre à cette espèce de raisonnement. Il ne serait pas loyal de se moquer de lui, car j'ai connu des personnes d'une instruction beaucoup plus relevée que la sienne déduire de certaines prémices des conséquences beaucoup plus étendues et pas plus sensées. Pour Mme Tulliver, elle trouva les idées de Mme Stelling sur les soins à donner au linge et à l'appétit d'un garçon qui grandissait tout à fait d'accord avec les siennes. Bien plus, il lui parut que Mme Stelling, quoique jeune encore et seulement sur le point d'avoir un second enfant, avait presque la même expérience qu'elle-même touchant les devoirs et le caractère fondamental d'une bonne d'enfant. Aussi, en revenant en voiture, elle exprima à son mari sa satisfaction de laisser Tom chez une dame qui, malgré sa jeunesse, paraissait tout à fait sensée et maternelle, et demandait des conseils d'une manière si gracieuse. « Il faut qu'il soit dans une bien bonne position, » dit Mme Tulliver, « car tout est aussi soigné que possible dans la maison. » Et cette robe de soie glacée qu'elle avait ne coûte pas peu. Sir Pullet en a une semblable. Ah, dit M. Tulliver, il a quelques revenus à côté de sa cure, je suppose. Peut-être le père de madame les aide-t-il. Et puis Tom leur apportera encore une centaine de livres sans qu'ils prennent beaucoup de peine, d'après ce que dit lui-même M. Stelling. Car l'enseignement lui est une chose naturelle. C'est étonnant pourtant, ajouta M. Tulliver, en hochant la tête et en donnant un coup de fouet méditatif sur le flanc de son cheval. Peut-être était-ce parce que l'enseignement était naturel à M. Stelling qu'il s'y adonnait avec une méthode uniforme, sans égard aux aptitudes particulières, ce qui est le propre des animaux instruits par la nature seule. L'aimable castor de M. Broderidge, ainsi que nous l'atteste ce charmant naturaliste, s'occupa avec autant de soin à construire une digue dans une chambre à un troisième étage à Londres que s'il avait établi ses fondations dans un ruisseau ou un lac du Haut-Canada. La fonction de Benet était de bâtir. L'absence d'eau ou de progéniture était un accident dont il n'était pas responsable. M. Stelling, avec cette même sûreté d'instinct, se mit à l'œuvre auprès de Tom, sa méthode naturelle étant d'infuser la grammaire d'Eton et les éléments d'Euclide dans l'esprit d'un élève. Voilà ce qu'il considérait comme la seule base d'une instruction solide. Tous les autres moyens n'étaient que du pur charlatanisme et ne pouvaient produire rien de mieux que des demi-connaissances. Fondé sur cette base sûre, un homme pouvait sourire de pitié en voyant enseigner des sujets variés ou spéciaux par des personnes dont l'instruction n'avait pas été régulière. Tout cela pouvait être bien, mais il était impossible que ces gens-là eussent des opinions saines. M. Sterling n'était point dirigé dans cette voie, comme l'ont pu être quelques instituteurs, par la sûreté ou l'étendue de sa propre érudition. Et quant à ses vues à l'égard d'Euclide, aucune appréciation n'eût pu être plus que la sienne, dépourvue de partialité personnelle. M. Sterling était très loin de se laisser entraîner par l'enthousiasme religieux ou intellectuel. D'un autre côté, il n'avait point la secrète conviction que toute chose enseignée ne fût que des tromperies. Il reconnaissait la religion comme excellente en elle-même et Aristote comme une grande autorité. Les doyennés et les prébendes lui paraissaient d'utiles institutions. La Grande-Bretagne était à ses yeux le boulevard du protestantisme et la foi dans l'invisible, une grande consolation pour les âmes affligées. Il croyait à tout cela, comme un aubergiste de la Suisse croit à la beauté du paysage qui l'entoure et au plaisir qu'y trouvent les touristes. C'est ainsi que M. Sterling avait choisi sa méthode d'instruction. Il n'avait aucun doute qu'il ne fît ce qu'il y avait de mieux pour le fils d'Aleva. Naturellement, quand le meunier lui avait parlé de tracer de plan et d'arithmétique, d'une manière vague et timide, M. Sterling s'était mis l'esprit en repos en l'assurant qu'il comprenait ce qu'il désirait. Comment était-il possible à ce brave homme de se faire une idée raisonnable de ces choses-là? Le devoir de M. Sterling était d'instruire le jeune homme de la manière convenable. À la vérité, il n'en connaissait pas d'autre. Il n'avait pas perdu son temps à rien apprendre au dehors. Il eut bientôt reconnu que Tom était un garçon sans moyens, car quoiqu'avec un rude labeur, il réussit à faire entrer quelques déclinaisons dans la tête de cet enfant, une chose aussi abstraite que la relation entre les cases et les terminaisons ne put jamais s'y loger de manière qu'il pût reconnaître à l'occasion un génitif d'un datif. Cela frappa M. Sterling comme étant plus que de la bêtise naturelle. Il soupçonna que c'était de l'obstination, ou tout au moins de l'indifférence, et gronda sévèrement Tom sur son manque complet d'application. « Vous ne mettez aucun intérêt à ce que vous faites, monsieur, » dit M. Sterling, et ce reproche était tristement vrai. Tom n'avait jamais trouvé la moindre difficulté à distinguer un chien d'arrêt d'un chien courant, une fois qu'on lui avait dit ce qui les caractérise, et ses facultés d'appréciation n'étaient point en défaut. Je crois qu'elles étaient tout aussi sûres que celles du révérend M. Sterling. Tom pouvait, en effet, annoncer très exactement le nombre de chevaux trottant derrière lui. Il pouvait jeter une pierre juste au centre d'un cercle donné. Il pouvait deviner à une fraction près combien il faudrait de longueur de son bâton pour mesurer l'étendue du champ des jeux, et pouvait dessiner des carrés presque parfaits sur son ardoise sans rien mesurer. Mais M. Sterling ne faisait aucune attention à ces aptitudes-là. Il observait seulement que les facultés de Tom lui faisaient défaut devant les idées abstraites, dont il trouvait de hideux symboles dans les pages de la grammaire d'Eton, et qu'il était dans un état voisin de l'idiotisme en face de la démonstration que deux triangles donnés doivent être égaux, quoiqu'il pût reconnaître avec grande promptitude et certitude le fait qu'ils étaient égaux. D'où M. Sterling conclut que le cerveau de Tom, étant particulièrement inaccessible à l'étymologie et aux démonstrations, avait le plus grand besoin d'être labouré et hercé pour recevoir ces notions absolument indispensables. Car, c'était sa métaphore favorite, que les classiques et la géométrie constituent cette culture de l'esprit qui le rend propre à recevoir toute autre semence. Je n'ai rien à dire contre la théorie de M. Sterling. Si nous devons n'avoir qu'un seul régime pour tous les esprits, celui-ci me semble aussi bon que tout autre. Je sais seulement qu'il se trouva tout aussi malsain pour Tom Taleva que si on l'avait nourri exclusivement de fromage pour guérir une gastrite qui ne lui permettait pas de le digérer. Il est surprenant de voir quels résultats différents on obtient en changeant les métaphores. Appeler le cerveau un estomac intellectuel, et cette conception ingénieuse pour laquelle les classiques et la géométrie représentent la charrue et la herse semble ne rien démontrer. Mais on peut concevoir une autre métaphore en suivant de grandes autorités et appeler l'esprit une feuille de papier blanc ou un miroir, et dans ce cas, la connaissance que l'on avait du procédé digestif devient tout à fait peu concluante. C'est sans doute une idée juste que d'appeler le chameau le vaisseau du désert. Mais cela n'aiderait pas beaucoup pour élever cet animal utile. Oh, Aristote, si tu avais eu l'avantage d'être le plus délicat des modernes, au lieu d'être le plus grand des anciens, n'aurais-tu pas mêlé à ton éloge du langage métaphorique, comme signe de haute intelligence, un regret de ce que cette intelligence ne peut que rarement se manifester dans le langage, sans que, pour indiquer ce qu'est une chose, nous disions qu'elle est quelque chose d'autre. Tom Taleva, n'étant pas riche en phrases, ne se servait d'aucune métaphore pour énoncer son opinion à l'égard du latin. Il ne l'appelait point alors un instrument de torture. Ce ne fut qu'après avoir entamé un second semestre et avoir attaqué le « delectus » qu'il fut assez avancé pour l'appeler une « scie » et une affaire stupide. Pour le présent, quant à la nécessité d'apprendre les déclinaisons et les conjugaisons latines, Tom ne pouvait pas mieux s'expliquer la cause de ses souffrances qu'une innocente musaraigne emprisonnée dans le tronc fendu d'un frêne pour empêcher les accidents du bétail ne devine la cause de son supplice. Les esprits cultivés de notre temps auront sans doute bien de la peine à croire qu'un garçon de 12 ans, n'appartenant pas positivement aux masses vouées à l'ignorance absolue, n'eût aucune idée distincte de la manière dont une chose comme le latin était venue sur la terre. Et c'est pourtant ce qui arrivait à Tom. Il aurait fallu bien du temps pour lui faire concevoir qu'il eût jamais existé un peuple qui achetait et vendait des brebis et des bœufs et faisait toutes les affaires journalières de la vie en se servant de cette langue. Eh bien, on exigeait de lui qu'il dût l'étudier, et bien plus de temps encore pour lui faire comprendre pourquoi on exigeait de lui qu'il dût l'étudier, quand il n'y avait plus aucun rapport entre cette langue et les besoins actuels. Dans le peu de connaissances que Tom avait pu acquérir sur les Romains, à l'académie de M. Jacobs, ce qu'il en savait était exact, mais n'allait pas plus loin que le fait qu'il figurait dans le Nouveau Testament. Et M. Stelling n'était pas homme à affaiblir et efféminer l'esprit de son élève par des explications simples, ou à diminuer la puissance de l'étymologie en y mélangeant des connaissances superficielles et étrangères, comme pour les jeunes filles. Cependant, ce qui est remarquable, c'est que Tom, sous ce vigoureux traitement, devint plus semblable à une jeune fille qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Sa fierté, qui jusqu'alors s'était trouvée fort à l'aise dans le monde, méprisant les vieilles besicles et s'appuyant sur le sentiment de droit non discuté, était maintenant sans cesse froissée et blessée. Tom était trop clairvoyant pour ne pas reconnaître que le niveau de M. Stelling était très différent et certainement quelque peu plus relevé aux yeux du monde que celui des gens avec lesquels il avait lui-même vécu, et que lui, Tom Taleva, mis en contact avec cette supériorité, paraissait lourd et sot. Cela ne lui était nullement indifférent, et son orgueil se trouvait dans un état de souffrance qui détruisait tout son contentement de lui-même, en tant que garçon, et lui donnait quelque chose de la susceptibilité d'une petite fille. Son caractère était très ferme, pour ne pas dire obstiné, mais sans disposition à la révolte brutale. L'amour-propre prédominait en lui, et s'il avait supposé pouvoir montrer quelque facilité pour ses leçons et obtenir l'approbation de M. Stelling, même en se tenant incommodément sur une jambe pendant un certain temps, ou en frappant légèrement sa tête contre le mur, ou par quelque autre acte volontaire de ce genre, il l'aurait certainement essayé. Mais non, Tom n'avait jamais entendu dire que de tels moyens pussent éclaircir l'intelligence ou fortifier la mémoire des mots. Et il n'était porté ni à l'hypothèse ni aux expériences. Il lui vint à l'esprit qu'il pourrait peut-être obtenir quelque secours par la prière. Mais les prières qu'il répétait chaque soir étaient des formules apprises par cœur, et il avait vraiment peur de la nouveauté et de l'irrégularité qu'il y introduirait par quelque passage improvisé au sujet d'une demande si nouvelle pour lui. Mais un jour qu'il s'était trompé pour la 5e fois dans les suppins de la 3e conjugaison, et que M. Stelling, convaincu que ce devait être par négligence, puisque cela dépassait les bornes possibles de la bêtise, l'avait grondé très sévèrement, et lui avait fait remarquer que s'il perdait cette occasion unique d'apprendre les suppins, il pourrait la regretter quand il serait homme, Tom, plus malheureux qu'à l'ordinaire, se détermina à recourir ce soir-là à sa seule ressource. Après avoir, suivant l'habitude, prié pour ses parents et la petite sœur, il avait commencé à prier pour Maggie dès qu'elle était venue au monde, et demandé à Dieu sa protection, il ajouta de la même voix basse, « Et qu'il te plaise que je puisse toujours me rappeler mon latin. » Il s'arrêta un instant pour examiner comment il pourrait prier à l'égard d'Euclide, s'il pouvait demander de savoir quel en était le but, ou s'il y avait quelque autre désir de son esprit qui fût plus approprié à la circonstance. Mais enfin il ajouta, « Et de faire que M. Stelling ne me donne plus d'Euclide à étudier. Amen. » La récitation qu'il fit le lendemain de ses supins, sans se tromper, l'encouragea à persévérer dans cet appendice à ses prières, et neutralisa le doute qu'aurait pu faire naître en lui les interrogations sur Euclide, auxquelles M. Stelling n'avait pas renoncé. Mais sa foi céda sous l'absence apparente de tout secours quand il arriva aux verbes irréguliers. Il lui sembla clairement que son désespoir devant les caprices du temps présent ne constituait plus une difficulté nécessitant l'assistance divine. Et comme c'était pour lui le comble des difficultés, à quoi servirait-il de prier plus longtemps? Il en vint à cette conclusion pendant une de ces soirées tristes et solitaires qu'il passait dans la chambre d'études à préparer ses leçons pour le lendemain. Ses yeux se troublaient quelquefois sur son livre, quoiqu'il eût honte de pleurer. Il ne pouvait s'empêcher de penser avec quelque affection même à Spencer, avec lequel il se querellait et se battait naguère. Il se serait senti avec lui à l'aise et dans un état de supériorité. Puis le moulin à la rivière, et Yap redressant les oreilles, prêt à obéir au moindre signe de Tom. Tout cela se présentait à lui dans une espèce de fièvre, pendant que ses doigts jouaient par distraction dans sa poche, avec son grand couteau, sa pelote de ficelle et d'autres reliques du temps passé. Tom, comme je l'ai déjà dit, n'avait jamais autant ressemblé à une jeune fille auparavant. Et lorsqu'il fut au moment d'apprendre ces verbes irréguliers, son courage fut encore plus abattu par un nouveau moyen de développement intellectuel que l'on trouva pour lui en dehors des heures de leçon. Madame Stelling venait d'avoir un second enfant, et comme rien ne pouvait être plus salutaire pour un garçon que de se sentir utile, elle pensa rendre service à Tom en lui donnant à garder Laura, ce petit chérubin, pendant que la bonne était occupée de l'autre enfant malade. Ne serait-ce pas une fort agréable occupation pour Tom que de sortir avec Laura pendant l'heure la plus chaude des journées d'automne? Car de cette manière, il se trouverait à la cure de Lawton comme à la maison et en famille. Ce petit chérubin de Laura, ne marchant pas encore d'une manière sûre, avait un ruban attaché autour de la taille par lequel Tom la tenait quand elle avait envie de marcher pendant quelques minutes. Et comme ces minutes étaient rares, il devait la plupart du temps porter tout autour du jardin cette belle enfant, en vue de la fenêtre de Madame Stelling, suivant ses ordres. Avant de blâmer cette conduite envers Tom comme peu loyale et même tyrannique, il faut considérer qu'il y a les vertus féminines qui se concilient rarement entre elles, lors même qu'elles ne sont pas incompatibles. Quand la femme d'un pasteur pauvre réussit, malgré toutes les difficultés, à se bien habiller et à se coiffer d'une manière qui réclame quelquefois les soins d'une femme de chambre, quand de plus les dîners et les soirées qu'elle donne font preuve d'une élégance et d'un ensemble pour lesquels une autre femme demanderait un revenu plus considérable, il serait peu convenable d'exiger d'elle qu'elle prît une seconde bonne ou la remplaçât elle-même. M. Stelling s'y connaissait. Il voyait que sa femme faisait déjà des miracles et il en était fier. Ce n'était certainement pas ce qu'il y avait de mieux pour la taille de Tom que de porter un enfant déjà lourd. Mais il faisait suffisamment d'exercice dans ses longues promenades solitaires, et le semestre prochain, M. Stelling s'occuperait de lui procurer un maître d'exercice militaire. Parmi tous les moyens parmi lesquels M. Stelling espérait être plus heureux que la masse de ses semblables, il plaçait en première ligne l'avantage d'être maître chez lui. Si Tom eût été méchant, il aurait certainement haï ce petit ange de Laura. Mais il avait trop bon cœur pour cela. Il en avait trop. Il avait en lui trop de cette fibre qui donne la mâle fermeté et la pitié protectrice pour les faibles. Peut-être bien aurait-il détesté Madame Stelling, et par suite, en général, les pâles boucles blondes et les larges tresses, comme liées à des manières hautaines et à de trop fréquentes allusions aux devoirs des autres. Mais il ne pouvait s'empêcher de jouer avec la petite Laura et d'aimer à l'amuser. Il sacrifia même ses capsules pour elle, désespérant de les jamais faire servir à un meilleur usage, pensant que le petit éclair et le bruit la distrairaient. Il s'attira ainsi un reproche de Madame Stelling sur ce qu'il montrait à son enfant à jouer avec le feu. Laura était une espèce de camarade de jeu, et Tom désirait tant des camarades de jeu. Dans le secret de son cœur, il souhaitait d'avoir Maggie avec lui et se surprenait à aimer ses distractions exaspérantes. Quoique, lorsqu'ils étaient ensemble, il présenta toujours à sa sœur comme une grande faveur de sa part la permission de la laisser trotter à côté de lui dans ses excursions de plaisir. Avant que ce triste semestre fût terminé, Maggie fit une visite à Tom à sa pension. Madame Stelling lui avait fait une invitation indéterminée de venir passer quelque temps chez elle auprès de son frère. Aussi, lorsque M. Tallevar vint à King's Lorton vers la fin d'octobre, Maggie accompagna son père, heureuse de l'idée de faire un grand voyage et de commencer à voir le monde. C'était la première visite de M. Tallevar à Tom, car le garçon devait apprendre à ne pas trop penser à la maison paternelle. « Eh bien, dit-il à son fils, quand M. Stelling eut quitté la chambre pour annoncer cette arrivée à sa femme et que Maggie eut commencé à embrasser librement Tom, « Tu as bonne mine, l'école te convient. » Tom aurait préféré paraître malade. « Je ne crois pas que je me porte bien, père, dit-il. J'aimerais que vous demandiez à M. Stelling de ne pas me faire faire d'Euclide. Cela me donne mal aux dents, je crois. » Le mal de dents était la seule maladie à laquelle Tom eût jamais été sujet. « Euclide, mon garçon, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» dit M. Tallevar. « Oh, je ne sais pas. Il y a des définitions et des axiomes et des triangles et d'autres choses. C'est un livre dans lequel je dois étudier et qui n'a point de sens. »« Allons, allons, » dit M. Tallevar d'un ton de reproche. « Il ne faut pas dire cela. Il faut étudier ce que ton maître désire. Il sait ce qu'il est bon que tu apprennes. »« Je t'aiderai à présent, Tom, » dit Maggie avec un petit air de protection encourageante. « Je puis rester aussi longtemps que Madame Stelling me le permettra. J'ai apporté ma caisse de vêtements, n'est-ce pas, père ?»« Toi, m'aider, petite folle, » dit Tom, si amusé par cette offre, qu'il se réjouit à l'idée de confondre Maggie en lui montrant une page d'Euclide. « J'aimerais te voir suivre une de mes leçons. Puis j'apprends aussi le latin. Les filles n'apprennent jamais ces choses-là. Elles sont trop nigaudes. » « Je sais très bien ce que c'est que le latin, » dit Maggie avec assurance. « Le latin est un langage. Il y a des mots latins dans le dictionnaire. Il y a « bonus » qui veut dire un don. « Eh bien, tu te trompes joliment, là, Miss Maggie, » dit Tom secrètement étonné. « Tu te crois bien habile, mais « bonus » veut dire « bon, bonus bona bonum. »« Eh bien, il n'y a pas de raison pour que ça ne veuille pas dire aussi « un don », dit Maggie hardiment. « Ça peut signifier plusieurs choses. Presque tous les mots sont ainsi. » Le mot anglais « lawn » veut dire une pelouse et en même temps l'étoffe dont on fait les mouchoirs de poche. « Bien joué, petite, » dit M. Tallevar en riant, tandis que Tom était presque mécontent de la science de Maggie, quoique enchanté de l'idée qu'elle allait rester avec lui et que sa vanité serait bientôt rabattue par la simple inspection de ses livres à lui. Madame Stelling, dans sa pressante invitation, n'avait pas parlé d'un séjour de plus d'une semaine pour Maggie. Mais M. Stelling, qui la prit entre ses genoux et lui demanda où elle avait volé ses yeux noirs, insista pour qu'elle restât une quinzaine de jours. Maggie trouva que M. Stelling était un charmant homme, et M. Tallevar fut tout fier de laisser sa fillette là où elle pourrait faire admirer son savoir à des étrangers appréciateurs. Il fut donc convenu qu'on ne viendrait la chercher que 15 jours plus tard. « À présent, viens avec moi à la classe, Maggie, » lui dit Tom, quand leur père fut parti. « Pourquoi est-ce que tu secoues la tête comme ça, petite nigaude ?» continua-t-il. Car, quoique les cheveux de Maggie fussent arrangés d'une nouvelle manière, bien brossés et passés derrière les oreilles, il lui semblait encore devoir les chasser de devant ses yeux. « Oh, je ne puis m'en empêcher, » dit Maggie avec impatience. « Ne me tourmente pas, Tom. »« Oh, que de livres !» s'écria-t-elle, en voyant la bibliothèque dans la classe. « Que j'aimerais avoir autant de livres que cela !» « Mais tu ne pourrais pas en lire un seul, » dit Tom triomphant. « Ils sont tous en latin. »« Non, ils ne le sont pas, » dit Maggie. Je puis lire le titre de celui-ci, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Tu n'en sais rien, dit Tom en secouant la tête. Mais je le saurai bientôt, dit Maggie dédaigneusement. Oui, et comment? Je regarderai dedans, et je saurai de quoi il traite.
Il vaudra mieux ne pas le faire, Miss Maggie, dit Tom, la voyant porter la main vers le volume.
Monsieur Stelling ne laisse personne toucher à ses livres sans permission, et c'est moi qui serai grondé si tu le prends.
Oh, très bien, montre-moi les tiens alors, dit Maggie, en se tournant pour passer le bras autour du cou de Tom et frotter son petit nez rond contre sa joue.
Tom, dans la joie de son cœur d'avoir sa chère ancienne Maggie pour la quereller et la dominer de nouveau, et commença à danser avec elle autour de la grande table de la bibliothèque. Les voilà sautant à qui mieux mieux, jusqu'à ce que les cheveux de Maggie s'échappent de derrière ses oreilles et flottent dans l'air comme s'ils étaient animés. Mais les évolutions autour de la table devinrent de plus en plus irrégulières et atteignirent enfin le pupitre de lecture de M. Stelling, l'envoyant rouler sur le plancher avec le bruit du tonnerre. Heureusement, on était au rez-de-chaussée et cette chambre d'études formait une aile à un seul étage, en sorte que cette chute n'eut aucun retentissement alarmant, quoique Tom restât étourdi et atterré pendant quelques minutes, redoutant l'apparition de monsieur ou de madame Stelling.
« Oh, vois-tu, Maggie, dit Tom à la fin, en relevant le pupitre, il faut nous tenir tranquilles ici, tu sais. Si nous cassons quelque chose, madame Stelling nous fera crier « Peccavi ».
Qu'est-ce que c'est que ça ?»
« Oh, c'est en latin une bonne semonce, » dit Tom, non sans quelque fierté de science.
« Est-ce qu'elle est méchante ?» dit Maggie. « Je t'en réponds, » dit Tom, avec un signe de tête éloquent.
« Je crois que les femmes sont toutes plus méchantes que les hommes, » dit Maggie. « Tante Glegg est beaucoup plus sévère que l'oncle Glegg, et maman me gronde beaucoup plus souvent que papa. »«
Eh, mais tu seras une femme un jour, » dit Tom.
« Ainsi, tu n'as pas besoin de dire cela. »
« Mais je serai une femme savante, » dit Maggie en secouant la tête.
« Oui, je le crois bien, et une ennuyeuse et vaine créature. Tout le monde te détestera.
Mais tu ne devras pas me détester, Tom.
Ce serait très mal à toi, car je serai ta sœur.
Oui, mais si tu es une personne désagréable et vaine, je te détesterai.
Oh, mais Tom, tu ne le feras jamais. Je ne serai pas désagréable. Je serai très bonne pour toi, et je serai bonne pour tout le monde.
Tu ne me détesteras pas du tout, n'est-ce pas, Tom?
Oh, tu m'ennuies, ça m'est égal. Allons, c'est le moment d'étudier ma leçon.
Regarde ce que j'ai à faire, dit Tom, en attirant Maggie près de lui et lui montrant son théorème, tandis qu'elle repoussait ses cheveux derrière ses oreilles, se préparant à lui montrer son habileté à l'aider dans Euclide. Elle commença à lire avec une entière confiance en ses moyens, mais se trouvant bientôt tout à fait déroutée, elle rougit d'irritation. C'était inévitable, il fallait avouer son incompétence, et elle n'aimait pas l'humiliation. « C'est de la bêtise, dit-elle, ça n'a point de sens. C'est un vilain jargon. Personne n'a besoin de le comprendre. »«
Ah, pourtant, Miss Maggie, dit Tom, en retirant le livre et frottant sa tête contre elle, tu vois que tu n'es pas si savante que tu croyais. »«
Oh, dit Maggie en faisant la moue, je suis bien sûr que je le comprendrais, si j'avais comme toi appris ce qui vient avant. »
« Mais c'est justement ce que tu ne pourrais pas, Miss Sagesse, dit Tom. Ce n'est que plus difficile quand on sait ce qui vient avant, car alors il faut dire ce qu'est la définition 3 et ce qu'est l'axiome 5. Mais retire-toi, il faut que je me mette à ça. Voilà la grammaire latine, regarde ce que tu y peux comprendre. »
Maggie trouva la grammaire latine tout à fait agréable, après sa mortification mathématique, car elle se plaisait aux mots nouveaux, et découvrit bientôt qu'il y avait une clé anglaise à la fin du volume, ce qui pourrait facilement la rendre très habile en fait de latin. Elle se décida vite à sauter les règles sur la syntaxe, les exemples étaient bien plus intéressants. Ces phrases mystérieuses détachées d'un texte inconnu, comme de curieuses cornes d'animaux ou des feuilles de plantes nouvelles apportées de quelques régions lointaines, offraient un champ illimité à son imagination, et la captivait d'autant plus qu'elles étaient dans une langue particulière qu'elle pourrait parvenir à interpréter. Elle était vraiment très intéressante, cette grammaire latine, que Tom disait qu'aucune fille ne pouvait apprendre, et elle était fière de la trouver si attrayante. Les exemples tirés de fragments détachés étaient ses favoris. « Mors omnibus est communis »
est une maxime qui lui eût offert peu d'attrait si elle n'eût été bien aise d'en connaître le latin. Mais l'heureux monsieur que tout le monde félicitait, parce qu'il avait un fils doué d'une telle disposition, lui offrait un sujet de beaucoup plus agréable conjecture, et elle était tout à fait perdue dans l'épaisse forêt qu'aucune étoile ne pouvait pénétrer. Lorsque Tom lui cria, « À présent, Maggie, donne-moi la grammaire. »« Oh, Tom, c'est un si joli livre, » dit-elle, en sautant du grand fauteuil pour la lui donner. « C'est bien plus joli que le dictionnaire. Je pourrais bien vite apprendre le latin. Je ne le crois pas du tout difficile. » « Oh, je sais ce que tu as fait, » dit Tom. « Tu as lu l'anglais à la fin. Tout âne en peut faire autant. » Tom saisit le livre et l'ouvrit d'un air déterminé et affairé, comme pour dire qu'il avait à étudier une leçon dont aucun âne ne pourrait se tirer. Maggie, un peu piquée, se retourna vers les rayons de la bibliothèque pour chercher ce que signifiaient les titres. Bientôt, Tom l'appela. « Viens ici, Maggie. Viens entendre si je puis dire ça. Mets-toi au bout de la table, là où se tient M. Sterling quand je récite. » Maggie obéit et prit le livre. « Où commences-tu, Tom ?»« Oh, je commence à « Appellativa arborum » parce que je dois répéter tout ce que j'ai appris cette semaine. » Tom chemina assez bien pendant trois lignes, et Maggie commençait à oublier ses fonctions de souffleur en cherchant ce que pouvait dire « masse » qui arrivait deux fois lorsqu'il s'arrêta net à « sunt etiam volucrum ». « Ne me dis pas, Maggie, sunt etiam volucrum, ut ostrea, c'est tous. » « Non, » dit Maggie en ouvrant la bouche et remuant la tête. « Sunt etiam volucrum, » dit Tom très lentement, comme si les mots suivants devaient arriver plus vite quand il leur donnait cet avertissement qu'on les attendait. « C-E-U, » dit Maggie, s'impatientant. « Oh, je sais, tiens ta langue, » dit Tom. C-U, passer, irondo, ferrarum, ferrarum. Tom prit son crayon et fit plusieurs gros points sur la couverture de son livre. Ferrarum. Oh, cher, cher Tom, dit Maggie, que de temps il te faut. Ut, ut ostrea. Non, non, dit Maggie, ut tigris. Ah oui, je sais, dit Tom. C'était tigris vulpes. J'avais oublié. Ut tigris vulpes et pistium. Après quelques hésitations et répétitions, Tom traversa les lignes suivantes. « À présent, dit-il, ce qui suit est ce que je viens d'apprendre pour demain. Donne-moi le livre une minute. » Après avoir marmotté à voix basse un moment, en cédant des coups de poing sur la table, Tom rendit le livre. « Mascula nomina in a. » commença-t-il. « Non, non, Tom, ce n'est pas ce qui suit. Il y a nomen non crescens genitivo. »« Crescens genitivo !» s'écria Tom avec un rire moqueur. Car Tom avait appris pour sa leçon de la veille ce passage omis, et un jeune monsieur n'a pas besoin d'une connaissance très intime et très étendue du latin pour pouvoir sentir la pitoyable absurdité d'une faute de quantité. Crescens genitivo, crescens genitivo, quelle petite nigaude tu es, Maggie. Eh bien, tu n'as pas besoin de rire, Tom, car tu ne te le rappelais pas du tout. Je suis sûr que cela s'appelle ainsi. Comment puis-je le savoir? « Bah, je t'ai dit que vous autres filles, vous ne pouvez pas apprendre le latin. C'est nomen non crescens genitivo. »« Très bien alors, » dit Maggie en faisant la moue. « Je puis le dire aussi bien que toi. »« Et tu ne penses pas à tes pauses, car tu devrais t'arrêter deux fois plus longtemps à un deux points qu'à une virgule. »« Et tu t'arrêtes le plus longtemps là où il ne faudrait pas le faire du tout. »« Oh, c'est bon, ne babille pas, laisse-moi continuer. » On vint bientôt les chercher pour passer le reste de la soirée au salon. Et Maggie s'anima tellement près de M. Stelling, qui devait sûrement, pensait-elle, admirer son érudition, que Tom était presque étonné et effrayé de son audace. Mais elle fut tout d'un coup mortifiée par une allusion de M. Stelling au sujet d'une petite fille qu'il avait appris s'être sauvée vers les bohémiens. « Quelle singulière petite fille ce doit être !» dit Mme Stelling, pensant faire une plaisanterie. Mais cette plaisanterie, ayant trait à sa singularité supposée, ne fut pas du tout du goût de Maggie. Elle craignit qu'après tout, M. Stelling n'eût pas très haute opinion d'elle, et elle alla se coucher un peu abattue. Madame Stelling, pensait-elle, la regardait comme si elle trouvait ses cheveux très laids, parce qu'ils tombaient tout droit derrière sa tête. Toutefois, cette visite à Tom fut une quinzaine très heureuse pour Maggie. Elle avait la permission de rester dans la classe pendant qu'il prenait ses leçons, et par ses lectures, elle entra très avant dans la grammaire latine. L'astronome, qui haïssait les femmes en général, lui suggérait des suppositions si embarrassantes qu'elle demanda un jour à M. Stelling si tous les astronomes détestaient les femmes ou si c'était seulement cet astronome-là. Mais, prévoyant la réponse, elle dit « Je suppose que ce sont tous les astronomes, parce que vous savez qu'ils demeurent sur de hautes tours, et s'il y venait des femmes, elles pourraient babiller et les empêcher de regarder les étoiles. » M. Stelling aimait beaucoup l'entendre causer, et ils étaient en très bons termes. Elle dit à Tom qu'elle aimerait bien à avoir, comme lui, M. Stelling pour maître, et apprendre les mêmes choses. Elle savait qu'elle pourrait étudier Euclide, car elle l'avait regardé de nouveau, et elle avait vu ce que signifie A, B, C. C'étaient les noms des lignes. « Ah, je suis bien sûr que tu ne le pourrais pas, » dit Tom. « Je vais le demander à M. Stelling. »« Ça m'est égal, » répondit la vaniteuse petite créature. « Je le lui demanderai moi-même. » « Monsieur Stelling, » dit-elle le même soir, quand ils furent au salon, « ne pourrais-je pas apprendre Euclide et toutes les autres leçons de Tom, si vous vouliez m'enseigner ainsi qu'à lui ?»« Non, tu ne pourrais pas, » dit Tom indigné, « les filles n'apprennent pas Euclide. »« Le peuvent-elles, monsieur ?»« Elles peuvent glaner un peu de chaque chose, je pense, » dit Monsieur Stelling, « elles ont beaucoup de sciences superficielles. »« Mais elles ne peuvent aller loin en aucune étude. Elles ont l'esprit vif, mais sans profondeur. » Tom, heureux de ce verdict, montra son triomphe en faisant des signes de tête à Maggie par derrière la chaise de M. Stelling. Quant à Maggie, elle n'avait presque jamais été si mortifiée. Elle s'était sentie si fière d'être appelée « vive » pendant toute sa petite vie, et maintenant il semblait que cette vivacité ne fût qu'un signe d'infériorité. Il aurait mieux valu être lente comme Tom. « Ah ah, Miss Maggie, » dit Tom, quand ils furent seuls, « tu vois que ce n'est pas une si belle affaire que d'être vive. » Tu n'iras jamais loin en quoi que ce soit, tu sais. » Et Maggie était si abattue de cette terrible destinée qu'elle n'eut pas le courage de répliquer. Mais quand sa sœur, ce petit assemblage de vivacité et de manque de profondeur, fut reparti dans le cabriolet avec Luke, et que la chambre d'études fut de nouveau tout à fait solitaire pour Tom, elle lui manqua cruellement. Il avait eu réellement plus de courage et avait mieux fait ses leçons pendant que sa sœur était là. Et elle avait tant fait de questions à M. Stelling sur l'Empire romain, pour savoir s'il s'était réellement trouvé un homme qui eût pu dire en latin « Je ne voudrais pas l'acheter pour un sou ou une noix gâtée », ou si cela avait seulement été traduit, que Tom en vint enfin à comprendre confusément qu'il y avait une fois existé sur la terre des gens assez heureux pour savoir le latin sans avoir le besoin de l'étudier au moyen de la grammaire d'Eton. Cette idée lumineuse fut un grand progrès dans ses connaissances historiques de ce semestre, qui, sans cela, s'en serait tenu à un abrégé de l'histoire des Juifs. Mais ce triste semestre prit fin. Combien Tom fut heureux de voir tomber, sous le froid aquilon, les dernières feuilles jaunes de l'automne. Les sombres après-midi et la première neige de décembre lui parurent beaucoup plus animés que le soleil d'août. Et pour mieux jouir de la fuite des jours qui précédaient sa visite à la maison paternelle, il planta en terre 21 bâtons dans un coin du jardin, quand il fut à 3 semaines avant les vacances, et en arracha chaque jour un qu'il lançait à distance avec une force de volonté qu'il aurait envoyé aux enfers s'il eût été dans la nature des bâtons de voyager aussi loin. Pourtant, le plaisir du retour valait bien la peine d'être acheté, même par l'étude pénible de la grammaire latine. Quel bonheur de voir briller la lumière dans le salon de famille pendant que le cabriolet roulait sans bruit sur le pont couvert de neige. Quelle joie de passer de l'air froid à la chambre chaude et de recevoir les baisers et les sourires à ce foyer domestique. Les dessins des meubles et la grille et les pincettes étaient des idées premières qu'il n'était pas plus possible de critiquer que la solidité et l'étendue de la matière. Il n'y a pas de sentiment de bien-être à comparer à celui que nous avons éprouvé dans les lieux où nous sommes nés, dont les objets nous sont devenus chers avant que nous connussions la difficulté de choisir, et où le monde extérieur nous semblait compléter notre propre individualité. Cette sensation était acceptée et aimée par nous, comme celle de notre existence et de notre personnalité. Il pourrait paraître commun, laid même, ces meubles de notre première demeure, si on les vendait à l'enchère. Le goût nouveau du marchand tapissier les dédaignerait. Et n'est-ce pas cet effort pour arriver toujours à du mieux dans ce qui nous entoure, qui est le grand signe qui distingue l'homme de la brute, ou, pour présenter une définition plus relevée, qui distingue l'homme anglais de l'animal étranger. Mais Dieu sait où ces efforts pourraient nous conduire si nos affections n'étaient pas heureusement liées à ces vieilles choses communes, si les attachements et les saintes joies de notre vie n'avaient pas d'immuables racines dans la mémoire. Ce bonheur que l'on éprouve à contempler un buisson de sureau recouvrant de son feuillage un banc vers la haie, ce plaisir à le voir, qui est plus grand pour nous que celui de regarder le plus beau cities ou fuchsia s'épanouissant sur un doux gazon ondulé, est une préférence incompréhensible pour un horticulteur ou pour ces esprits régulièrement ordonnés qui n'apprécient que ce qui a une supériorité bien reconnue. Et la meilleure raison pour moi de préférer cette branche de sureau, c'est qu'elle se lie à un souvenir ancien, qu'elle n'est pas dans ma vie une nouveauté qui ne parle que par sa forme et sa couleur, mais qu'elle est la compagne qui, dans ma longue existence, s'est associée à mes joies quand mes joies étaient vives.